Bonjour Sylvia, God bless you. Alors bonjour à ceux qui se joignent à nous via la page Facebook de l'Église, la page Internet de l'Église ou qui nous rejoignent aussi par les différents moteurs de recherche. On n'est pas capable de vous identifier, mais on est content de savoir que vous êtes là en dépit de votre grande discrétion. Donc, que Dieu vous bénisse à tous et chacun. Bonjour, mon poète, que Dieu te bénisse. Bonjour, Denise, soyez bénie. Alors, j'ai eu bien du plaisir à enseigner cette semaine. Le sujet venait me chercher moi aussi. J'espère que ça vous a béni aussi. J'espère que tu te trouves bien là où tu es maintenant, Thérèse. J'espère que ton quartier est agréable, qu'il y a quand même des espaces verts pour te promener. Je crois que c'est quelque chose qu'on apprécie un peu plus depuis la pandémie, d'avoir quand même des espaces verts autour de la maison qu'on peut aller fréquenter un peu. Montréal est quand même assez bien garni en parcs et ça fait le plus grand bien, surtout quand on ne peut pas faire grand-chose en raison du confinement. Donc aller se promener dans un parc est toujours agréable. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Oh, ça c'est génial. Bonjour Babette, bonjour Andreas. Donc juste avant qu'on commence, j'aimerais redire à tous et chacun. Vous avez vu, bon, tout à l'heure, on a retiré une annonce, mais on a des gens comme un qui vient d'apparaître là. Anna Cassandra, on aimerait juste vous dire qu'on fait de la publicité que pour Jésus et pour aucun marabout ou autre sorcier de tout acabit. Celui qui est Dieu, c'est Jésus. Celui qui est fort, c'est Jésus. Donc vous voyez, on a de ces visiteurs qui viennent afficher de la publicité pour des sorciers, pour ce qu'on appelle des marabouts. On vous demande de pas liker en bon québécois, de pas aimer leurs commentaires, deux, de pas les contacter parce que de toute manière, c'est juste un moyen de frauder, un moyen d'aller chercher vos sous et surtout de faire fi en fait de ces annonces. Je sais que ça peut perturber, ça peut déranger, mais prenons-le comme voilà des gens qui travaillent pour le diable et qui font des annonces pour le diable et qui viennent entendre la parole de l'Évangile. Prenons-le comme ça. Quand vous voyez un de ces noms apparaître, priez simplement que Dieu fasse tomber les écailles des yeux et qu'il ouvre leur vue à sa présence, à sa grâce et à son amour. Donc on vous demande tout simplement de faire fi de leurs annonces. On n'est pas les seuls, j'ai parlé avec plusieurs pasteurs et puis au niveau francophone, et plusieurs d'entre eux sont affectés par les mêmes choses que nous. Donc des gens qui se connectent pour faire de la publicité pour des sorciers ou des marabouts. Donc faisons fi de cela. Prêchons l'Évangile, annonçons la parole de Dieu, et puis après ça, on fait le nettoyage après coup. Voilà. Alors, prions pour débuter ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. C'est encore une joie, un privilège d'être rassemblés pour étudier ta parole et recevoir ce mot que tu as préparé pour nous de toute éternité, que tu avais pour nous. En réserve pour cette époque-ci, pour ce moment-ci. Alors on te demande, Seigneur, de nous bénir par ta présence, de nous bénir par ton onction, de nous rassasier par ce pain de vie qu'est ta parole et d'abreuver notre âme. On a tellement besoin de toi et on a tellement besoin de marcher en symbiose avec ta parole, de marcher en accord avec celle-ci. Alors Seigneur, ouvre notre entendement, ouvre notre pensée. Permets Seigneur que rien ne puisse venir nous déranger, quelles que soient les tentatives de l'ennemi, que rien Seigneur ne puisse venir nous voler de cette bénédiction que tu as pour nous aujourd'hui et pour de cette parole que tu as préparée d'avance et que tu proclames aujourd'hui. Alors Seigneur, en toute chose, que ton nom soit élevé et proclamé. Nous t'avons béni dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors encore une fois, bienvenue à tous. Bienvenue à cette autre édition de Bénédiction matinale en ce jeudi 15 juillet 2021. Alors je lis pour vous le verset qui nous sert de méditation tout au long de cette semaine. Un verset qu'on a déjà étudié il y a quelques mois dans l'ensemble du passage, mais cette semaine, on s'est arrêté davantage sur le verset 5, tout simplement pour faire suite essentiellement à la prédication du pasteur André de dimanche dernier. Et on a intitulé cet enseignement et cette parole pour la semaine « L'athlète combat selon les règles ». L'athlète combat selon les règles. Alors, je lis pour vous. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Je répète, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Alors, que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui. Ce que j'aime du livre, notamment de Timothée, c'est que Paul, qui se sait à la fin de sa course, donne des instructions à son plus proche collaborateur ou à celui qui représente dans bien des églises le bras droit de Paul ou celui qui est appelé à lui succéder. Paul, sachant qu'il s'en va, va donner donc des conseils à Timothée. Oui, on va reprendre la même chose dans Tite. Dans Philippiens, qu'on appelle aussi un épître pastoral, il va y avoir un tas de conseils que Paul prodigue à des ouvriers, à des pasteurs, à des collaborateurs avec lui dans l'œuvre. Et quand on sait que quelqu'un s'en va, quand quelqu'un quitte et qu'il connaît son départ, on dirait que ses paroles deviennent plus précieuses parce qu'on sait qu'on ne va pas revoir la personne pendant un certain temps. Peut-être quand moi, j'ai des personnes dans ma vie, notamment quelqu'un que j'appelle un peu comme mon grand-père spirituel, et à chaque fois qu'il vient à Montréal, on va passer des heures et des heures et des heures à parler jusqu'aux petites heures du matin, en fait. Et je profite de chacun de ces instants-là parce que je me dis, je ne sais pas si effectivement dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans qu'on va se revoir, si effectivement on va arriver jusqu'à ce temps-là, puisque la personne en question est quand même assez âgée maintenant. Donc je prends l'occasion d'explorer toute l'expérience que cette personne a et de communier avec lui et de partager avec lui. Donc ici, c'est un peu ce que Paul fait avec Timothée. Et Paul va utiliser des images qui sont importantes pour un jeune homme qui connaît le sport et qui, il va lui dire, sous l'image de l'athlète, « Je t'invite à être un athlète et à être couronné comme un athlète parce que tu auras combattu selon les règles. » Alors, cette semaine, on a vu 2 fois le terme « athléo ». On l'a vu lundi, on l'a vu hier. Le terme « athléo », c'était pour « athlète » et pour « combattre ». La pensée importante d'hier, c'était d'être un athlète qui se comporte comme un athlète ou d'être un chrétien qui se comporte effectivement comme un chrétien doit se comporter. Et aujourd'hui, on va un peu plus loin dans cette pensée avec le mot « règle ». L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le terme « règle », c'est le terme « nominos ». N-O-M-I-N-O-S. Nominos. N-O-M-I-N-O-S. Qu'on retrouve simplement deux fois dans le Nouveau Testament. Ce qui est intéressant avec le verset de cette semaine, c'est que ce ne sont pas des termes qu'on retrouve à maintes et maintes reprises. Celui qu'on a retrouvé le plus, c'était le terme couronné, Stéphano, qui apparaissait trois fois. Sinon, le terme athléo et le terme nominos n'apparaissent chacun que deux fois. Alors, nominos apparaît effectivement dans 2 Timothée 2:5, le verset de cette semaine. L'athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles, donc pour le terme règle. Et il apparaît aussi dans 1 Timothée, au chapitre 1, le verset 8. 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 8, qui dit « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Et le terme « légitime », c'est le terme « nominos ». Donc, une fois, ça va être employé dans le sens de un usage légitime, approprié de la loi, et à une autre occasion, ça va être traduit par le terme « règle » ou « règlement ». L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Lorsqu'on parle de « nominos », la traduction dans un français plus usuel serait un terme comme « légalement ». Donc, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu légalement, conformément à la loi ou correctement. Donc, « nominos », règle, qui voudrait dire légalement, conformément à la loi ou correctement. J'aimerais faire ressortir 4 points ce matin. Premièrement, on nous dit l'athlète ne sera pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Ça veut donc dire qu'il y a effectivement des règles dans la vie de l'athlète. On en a parlé cette semaine, le fait de respecter un couloir dans une course particulière, le fait de respecter aussi, de se priver de certaines substances, de certains médicaments qui pourraient être considérés comme un produit dopant. Donc, un athlète, lorsqu'il va compétitionner, il faut s'assurer que dans son sang, dans son système, il n'a jamais pris de telles substances dopantes. Et parfois, ces substances sont cachées dans des médicaments usuels. Un athlète ne pourra pas utiliser de Sudafed ou certains produits décongestionnants. Pourquoi? Parce que dans ces produits-là, il y a des composantes qui sont considérées comme des produits dopants. Alors, un athlète, lorsqu'il va se soigner, lorsqu'il va même être en vacances, va éviter malgré tout toutes ces substances-là. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être contrôlé positif dans un test qui le disqualifierait dans sa compétition. Ça veut donc dire qu'un athlète est un athlète non seulement lorsqu'il est en train de pratiquer son sport, lorsqu'il est effectivement dans sa joute, mais l'athlète est aussi un athlète lorsqu'il est en plein repos. Lorsqu'il est en pleine vacances, il fait encore attention à ce qu'il fait. La question pour toi et pour moi, puisqu'il y a des règles, puisqu'il y a des règlements, ça veut donc dire qu'il y a des choses que Dieu approuve et que des choses que Dieu désapprouve. Il y a un comportement qui est approprié en tant qu'enfant de Dieu et il y a des choses qui sont tout à fait rejetées par le Seigneur comme pratique de tous les jours. Alors, la question pour toi et pour moi, Dieu peut-il approuver ce que je fais? Si on nous dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui juge le respect ou non des règles. Et dans le cas d'un athlète, c'est un arbitre, c'est un juge, c'est un représentant officiel de la fédération quelconque pour laquelle on compétitionne, mais il y a quelqu'un qui juge le travail de l'athlète, qui juge le comportement de l'athlète et qui dit « voilà ce qui est acceptable et voici celui-ci est rejeté parce qu'il a enfreint les règles ». Dieu fait la même chose. Dieu est ce juste juge qui veille sur chacune des choses qu'on fait, sur chacune des aspirations que nous avons, sur chacun des objectifs vers lesquels nous tendons. Et la question pour toi, pour moi, Dieu peut-il approuver ce que je fais? Dieu n'approuve pas tout. Dieu n'accepte pas tout. Dieu n'est pas d'accord avec tout ce que l'homme peut faire. Il arrive des moments où effectivement le Seigneur va dire « Non, ceci, je ne l'approuve pas ». Parfois même, ça va aller plus loin, ça va être concernant des individus. On se rappelle, à un moment donné, il y a le prophète qui pleure et qui pleure et qui pleure sur l'état de Saül, et Dieu lui dit « Arrête de pleurer sur Saül, parce que moi, je l'ai déjà rejeté ». Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il peut arriver, effectivement, que Dieu rejette un athlète. Nous ne voulons en aucun cas que ça soit notre histoire ou celle de nos bien-aimés, mais pour ne pas connaître le rejet et le jugement de Dieu, encore faut-il qu'il approuve ce que je fais. Est-ce que c'est une question que nous nous posons de façon régulière, à savoir, voici, je suis en train de faire une œuvre, Dieu est-il en train d'approuver cette œuvre? Il y a des gens qui s'impliquent dans une chose et qui foncent la tête première, et après coup, ils se demandent, Dieu était-il là-dedans? Ça serait bien plus opportun de s'interroger au départ. Dieu veut-il que j'embarque dans cela? Dieu veut-il que je démarre là-dedans? Et une fois que j'ai démarré en ayant l'approbation de Dieu, se demander encore, suis-je encore en train de faire les choses que Dieu approuve? Suis-je là où Dieu veut approuver? Suis-je en train de développer un projet que Dieu approuve? Suis-je en train de mettre de l'avant une attitude, un comportement, une façon d'être que Dieu peut approuver? Donc, première question pour toi, quelle première question pour moi? Dieu approuve-t-il ce que je fais? Deuxième question qu'on peut avoir à se poser. Lorsqu'on parle qu'on doit vivre selon des règles, ça veut donc dire qu'il y a une justice dans ce qui se fait. Ces règles-là ne peuvent pas être aléatoires d'une personne à une autre. Dieu ne peut pas dire « voici ce qui est péché pour une personne, voici ce qui n'est pas péché pour l'autre ». Sur un même acte, Dieu trouverait quelqu'un répréhensible et trouverait l'autre tout à fait correct. Effectivement, il y a des choses que Dieu permet, et ça arrive régulièrement dans notre vie, où la Bible nous dit « oui, nous avons le droit de faire telle chose », mais Dieu va dire à son enfant « pour toi, cette chose-là, je ne te le permets pas ». Même si c'est autorisé, même si c'est entre guillemets légalement ou bibliquement parlant, c'est légal, mais Dieu pourrait dire « pour toi, mon fils, voilà, ce n'est pas le chemin que j'ai pour toi. Il n'y a pas un péché à commettre la chose, il n'y a pas un péché à aller là-dedans, mais ce n'est pas la voie que j'avais pour toi. » Toutefois, il y a d'autres choses qui sont clairement péchées. Et ce qui est clairement péché est péché pour Monsieur A, Monsieur B, Monsieur C et jusqu'à la fin de l'alphabet. Donc, les principes de justice sont-ils partie prenante de ce à quoi j'aspire? Est-ce que ce à quoi j'aspire est juste devant Dieu? Est-ce que ce vers quoi je cours, est-ce que ce vers quoi je tends, est-ce qu'on peut dire effectivement que cette quête, cette recherche est juste devant Dieu? Est-ce que c'est équitable devant Dieu? Est-ce que les principes de justice aussi marquent ma façon de travailler? Parfois, l'objectif est bon, mais la façon dont nous courons après l'objectif, ce n'est pas bon. Essayons de trouver un exemple. Le Seigneur vous dit, tu dois évangéliser. Alors oui, je veux évangéliser, je vais évangéliser, je quitte pour aller évangéliser, mais le Seigneur dit, je veux que tu ailles évangéliser à Chibougamau, qui est une ville, une petite ville dans le nord du Québec. Et toi, tu dis, non, je veux aller à Rimouski, qui est une ville dans l'est du Québec. L'objectif final, c'est d'aller évangéliser, mais foncièrement, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas peut-être la méthode non plus que Dieu voulait que tu utilises. Alors, quelle est la chose que tu fais? Et dans cette chose que tu fais, si l'objectif est bon, est-ce que le processus qui y mène est aussi juste? Est-ce que Dieu peut non seulement approuver l'objectif, approuver le résultat, mais approuver aussi le chemin qui y mène? Parfois, il y a des gens qui vont aller s'appuyer sur des choses qui ne sont pas de Dieu. Il y a un verset qui nous dit de ne pas s'appuyer sur les chevaux et les chars de l'Égypte, mais de faire confiance à Dieu. Ça veut donc dire que par moment, on peut, dans notre travail pour le Seigneur, avoir cette tentation d'aller recourir à des choses que Dieu n'approuve pas et les sacraliser, les rendre saintes, tout simplement parce que l'objectif pour lequel on les utilise serait bon. Pour que la chose soit sainte, pour que la chose soit excellente, il faut non seulement que la quête, donc l'objectif, soit celui que Dieu veut, mais de surcroît à cela, que le processus qui m'y mène soit aussi celui que Dieu veut. Rappelons-nous cette histoire où Jésus va aller vers la Galilée, donc il parle de la Judée, le sud d'Israël, et il va monter vers le nord pour aller vers la Galilée. Mais pour ce faire, il y a deux chemins. Les Juifs, habituellement, pour ne pas entrer en contact avec les Samaritains, qu'ils n'aimaient pas, avec qui ils avaient des désaveux et des désaccords, contournaient la Samarie pour se rendre en Galilée. Jésus, lui, va traverser la Samarie. Pourquoi? Essentiellement parce qu'il doit rencontrer une femme, la femme samaritaine. Cette femme qui ne mène pas la plus parfaite des vies, mais cette femme qui va être un instrument entre les mains de Dieu pour convertir l'ensemble d'un village qui va venir près de Jésus pour entendre les paroles qui sortent de sa bouche. Alors l'objectif, c'était d'aller en Galilée. Jésus aurait pu contourner la Samarie et faire comme tous les autres, mais non, il savait qu'en chemin, il y avait une femme à rencontrer. Quelles sont les choses que nous détournons, que nous écartons? Quelles sont les choses que nous tentons d'éviter tout simplement pour nous faciliter la vie? Je ne veux pas de contact avec ce groupe ou cette personne, alors je contourne en me disant, de toute manière, je vais réussir à faire l'objectif ultime qui est d'aller en Galilée et de faire le ministère en Galilée, mais ce faisant, il se pourrait effectivement que je passe à côté d'un trajet, à côté d'un point important que Dieu voulait pour moi. Donc, Dieu peut-il approuver ce que je fais? Et le processus par lequel je m'y rends, le processus que je pratique pour arriver à l'objectif, est-ce que c'est aussi avec un sceau à poser de justice par Dieu? Troisième point, est-ce que ce que je fais est conforme à ce que Dieu demande de moi? Je parlais avec quelqu'un cette semaine, toujours sur cette thématique de l'athlète, et j'expliquais, en fait, on n'est pas en train de faire une course contre d'autres frères et d'autres sœurs. Nous ne sommes même pas en train de combattre avec des frères et des sœurs. La Bible nous dit de toute manière que ce n'est pas contre le sang et la chair que nous nous battons, mais que ce sont contre les dominations, les principautés de ce siècle, de ces principautés des ténèbres. Donc, une chose qui est importante à savoir, c'est que je ne suis pas en compétition donc avec mes frères et mes sœurs. Chacun d'entre nous avons notre propre course. Chacun d'entre nous avons notre propre combat. Il peut s'avérer effectivement que nous menons des combats conjointement contre le diable, conjointement dans une cause particulière, mais de surcroît à cela, nous avons aussi des causes uniques propres à chacun d'entre nous. Nous avons des courses uniques et propres à chacun d'entre nous. Et dans cette course, suis-je en train de mener le combat que Dieu veut que je mène? Suis-je en train de mener la course que Dieu veut que je mène? Vous savez, souvent, on voit les ministères de quelqu'un d'autre qu'on respecte, qu'on honore, voire même qu'on envie. Et dans certains cas, et ça arrive probablement à nous tous à l'occasion, on envie le ministère de quelqu'un d'autre, on aspire au ministère de quelqu'un d'autre et on essaie d'accomplir le même ministère que quelqu'un d'autre. Mais ce faisant, je pourrais passer tout à fait à côté de mon ministère et tout à fait à côté de mon appel. À un moment donné, dans l'histoire de l'Église, ça va fonctionner par vagues. Et là, on a eu une époque de grands prédicateurs. Après ça, on a eu une époque de grands enseignants. On a eu une époque de grands prophètes. On a eu une époque de gens avec des dons de miracles importants. Il y a eu une vague à un moment donné avec certaines capacités ou habiletés spirituelles et dons spirituels à chasser les démons, à discerner les démons. Donc, lorsque une de ces vagues se passe, beaucoup de chrétiens ont tendance à aspirer à cette vague-là et dire « Oh, moi, j'aimerais faire la même chose ». La problématique avec faire la même chose, c'est que cette chose-là n'est peut-être pas celle que Dieu avait pour toi. Un peu comme David, sur qui on met l'armure du roi Saül, mais David a la sagesse de dire « je suis pas capable de fonctionner dans cette cuirasse-là ». Lorsque tu te mets dans un endroit que Dieu ne t'a pas, auquel Dieu ne t'a pas appelé, lorsque tu mets sur toi l'habit ministériel qui n'est pas le tien, ben ce faisant, tu te mets aussi en danger. Et ça, c'est quelque chose que plusieurs personnes ne prennent pas en considération. Assurément, porter l'armure du roi, ça devait être quelque chose de fantastique. L'armure du roi, en général, était plus grande, plus grosse, plus belle, plus perlante ou plus étincelante. Et assurément, c'était pas n'importe qui pouvait porter l'armure du roi. David aurait pu se dire « Hey, je suis en train de porter la cuirasse qui sera mienne un jour puisqu'il avait été oint pour être roi éventuellement. » Mais non, David a compris que cette cuirasse n'était pas la sienne, que cet habit n'était pas le sien. Et s'il s'était présenté devant Goliath avec d'autres vêtements que les vêtements du berger qu'il était, il aurait été gravement en danger devant Goliath. Dieu ne veut pas que tu prennes le vêtement de quelqu'un d'autre. Dieu ne veut pas que tu viennes dans la place de quelqu'un d'autre. Il y a une place spécifique pour toi. Il y a une œuvre spécifique pour toi. Et cette œuvre-là a été préparée de toute éternité par Dieu pour toi. Et foncièrement, Dieu pensait à toi et il t'a préparé de toute éternité pour cette œuvre spécifique. Lorsque moi, je me mets dans un endroit qui n'est pas le mien, je me mets donc à faire quelque chose pour laquelle Dieu ne m'avait ni préparé, ni appelé, ni mandaté. Et voilà pourquoi plusieurs personnes courent à l'échec. Parce qu'au lieu de faire ce que Dieu leur demande, ils essaient de copier leurs frères, leurs sœurs, leurs voisins, leurs voisines en devenant autre chose que ce que Dieu avait pour eux. Donc je prie, mon frère, que tu puisses répondre favorablement à cette troisième question. Est-ce que ce que je fais est conforme à ce que Dieu demande de moi? Suis-je en train de faire ce que Dieu voulait? Tu pourrais me dire, oui, mais j'aspire à plus. Comment peux-tu aspirer à davantage que ce pourquoi Dieu t'a exactement créé? Y a-t-il vraiment quelque chose de plus noble sur cette terre que d'accomplir pleinement le mandat que Dieu avait pour toi? Peux-tu dire à Dieu, « Seigneur, tu t'es trompé. Ce que tu me demandes de faire, ce n'est pas assez grand, ce n'est pas assez élevé. » Peux-tu vraiment te tourner vers Dieu et commencer à te plaindre sur la petitesse, sur le côté pas assez glorieux de ce à quoi Dieu t'a appelé? Mon frère, ma sœur, nous n'avons qu'une vie à vivre. Et cette vie a été donnée, a été pensée dans sa longévité, dans ses capacités, pour que nous accomplissions une chose, la volonté de Dieu. Et cette volonté-là, c'est celle qui est propre pour toi et non pas celle pour ton frère. Je serais en train de faire fausse route si j'essayais d'être quelqu'un d'autre que ce que Dieu m'a appelé à être. Je ferais fausse route si j'essayais de faire le ministère que Dieu avait confié à quelqu'un d'autre. Je ferais fausse route si je ne cherchais pas à savoir, Dieu, Seigneur, suis-je en train de faire conformément à ta volonté? Question importante pour toi. Est-ce que tu es en train de faire conformément à ce que Dieu voulait? Dernier point. Lorsqu'on parle du terme nominos, règle, lorsqu'on l'étudie dans le premier chapitre de 1 Timothée au verset 8, on va utiliser le terme légitime. Légitime, ça veut dire approprié, adéquat, qui est vraiment en règle avec une chose, qui est vraiment lié à une chose. Et il va nous dire dans ce verset-là que la loi est bonne, pourvu que nous en faisions un usage légitime, pourvu que nous en faisions un bon usage. On parle de servir Dieu, on parle d'être un athlète qui fait sa course selon les règles, on parle d'un combattant qui va combattre selon les règles. La question pour toi et pour moi, est-ce que j'utilise mon ministère pour un usage légitime? Est-ce que ce que je fais avec mon ministère ou avec mon service ou avec mon implication dans l'œuvre de Dieu, est-ce légitime? Il y a un verset qui nous dit, et c'est Paul qui en parle à un moment donné, il dit que certaines personnes servent Dieu pour les bonnes raisons et que d'autres servent pour leur propre ventre, qu'ils servent pour leur propre personne. Ça veut donc dire que dans certains cas, on peut servir Dieu pour une cause qui est noble, et parfois on peut servir Dieu, avoir des résultats, mais ne pas le faire pour une raison noble et légitime devant Dieu. Ah, j'ai déjà vu des gens qui ont prié pour d'autres. J'ai vu des jeunes hommes qui priaient pour des jeunes filles et qui disaient aux jeunes filles qu'ils priaient pour eux. Mais en fait, c'était tout simplement un moyen de draguer. Je vous parle très honnêtement. Ça va en faire sourire ce matin ou ça va en faire sourciller ce matin. Mais en tant que pasteur, j'ai vu de tels cas où des jeunes hommes vont s'approcher d'une jeune fille. « Hey, cette semaine, j'ai prié pour toi. » Mais c'est tout simplement un appât qu'ils lancent. Tu as prié, était-ce légitime? Tu lui dis que tu as prié, était-ce légitime? Tout simplement pour la bénir, ou était-ce tout simplement pour lancer un hameçon et la pâter? Quand on fait le service de Dieu, certaines personnes vont servir Dieu pour être reconnues ici-bas sur terre. Certains vont aspirer au service de Dieu pour être au-devant des gens, pour recevoir une certaine fierté ou un certain honneur de la part de leurs congénères ou de leurs contemporains. Est-ce vraiment pour cela qu'on sert Dieu? Se pourrait-il qu'à l'occasion, on serve Dieu pour de mauvaises raisons? On fait le ministère auquel il nous a appelés, mais les motifs intrinsèques, les motifs profonds de notre cœur ne sont plus les bons. Nos motifs deviennent d'avoir une reconnaissance publique, d'avoir une certaine cour autour de nous, comme si on était un petit monarque qui dirige un petit empire. Pourquoi veux-tu servir Dieu? Pourquoi sers-tu Dieu? Est-ce que tu le sers pour lui? Ou se pourrait-il que si Dieu te parlait honnêtement et sincèrement aujourd'hui, et si tu avais à cœur d'entendre sincèrement, se pourrait-il que Dieu te dise, tu ne me sers plus pour moi, tu me sers pour toi. Et ça serait un drame. La loi est bonne en autant qu'on en fasse un usage légitime. Voilà ce que disait Nominos dans 1 Timothée au chapitre 1 et le verset 8. Le ministère est une merveilleuse chose, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Combien de fois on a vu des serviteurs de Dieu qui n'étaient plus serviteurs du peuple de Dieu, mais qui aspiraient en toute chose à être servis parce qu'ils étaient serviteurs de Dieu. Combien on a vu de pasteurs, et c'est quelque chose pour lesquels on prie que Dieu nous en préserve et qu'on ait la sagesse de ne pas tomber dans un tel piège, mais combien de pasteurs sont devenus de petits monarques sur une église où les sujets, les membres de l'église étaient là pour les servir. Assurément, la Bible nous dit qu'on doit avoir de la déférence pour nos leaders, pour nos conducteurs. Assurément, la Bible nous dit qu'on doit avoir un comportement d'honneur envers nos conducteurs. Mais les conducteurs, en soi, ne peuvent pas exiger de leur congrégation ou de leur église comme un empereur sur son empire. Et malheureusement, on peut bien commencer une œuvre et la terminer avec de mauvaises pratiques. Bien commencer une œuvre avec les bonnes intentions et quand les choses commencent à grossir, ne plus travailler pour Dieu, mais travailler pour nous tout en faisant le ministère. C'est un grave danger et je prie que nous en soyons tous épargnés, que nous puissions tous ne pas sombrer dans ce piège. Alors les questions qu'on s'est posées ce matin, je vous les répète. Dieu peut-il approuver ce que je fais? Dieu peut-il approuver ce que je fais? Les principes de justice sont-ils partie prenante dans ce à quoi j'aspire? Est-ce que ce à quoi j'aspire, est-ce que c'est juste devant Dieu? Est-ce que ce que je fais est conforme à ce que Dieu demande de moi? Et enfin, est-ce que j'utilise la parole de Dieu et ou mon ministère ou mon œuvre pour un usage légitime ou pour mon propre bien-être? Quelle est la chose à laquelle tu aspires? Et dans comment tu cours vers cette chose, cours-tu d'une façon conforme devant Dieu? L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas été un athlète selon les règles. Et Dieu voit plus qu'aux œuvres, plus qu'aux résultats. Il regarde aussi le chemin entre les deux, entre le départ et le résultat. Il regarde aussi au cœur. Comment et pourquoi fais-tu ce que tu fais? Si ce n'est pas de la bonne raison, si ce n'est pas la bonne attitude, si ce n'est pas la bonne motivation du cœur, tu n'es pas en train d'opérer selon les règles de Dieu. Alors prions. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Et merci Seigneur parce que si nous nous dévions de ta voix, ce matin, nous entendons ta parole et tu nous ramènes à l'ordre. Seigneur, on doit se poser la question et on te demande de nous dire clairement, approuves-tu ce que nous faisons actuellement? Approuves-tu ce que je fais actuellement? Est-ce que ta justice m'habite dans tout ce processus? et dans toute cette quête. Seigneur, est-ce que je suis encore conforme à ce que tu demandes de moi? Suis-je en train de faire ce que tu me demandes? Ou suis-je en train de faire ce que tu avais demandé à quelqu'un d'autre? Tout simplement parce que je trouvais ça plus amusant, plus intéressant, plus glorieux, plus honorable. Seigneur, se pourrait-il, et si c'est le cas, Seigneur, dis-nous-le. Seigneur, se pourrait-il, et si c'est le cas, dis-moi-le. Est-ce que ça se pourrait que je fasse mon œuvre, mon ministère, mon travail, ma course pour un usage qui n'est pas légitime, qui n'est pas celui que tu avais pour moi? Oui, je cours vers cet objectif, mais ce faisant, je le fais pour de mauvaises raisons, pour me satisfaire moi-même, pour m'attirer une reconnaissance publique, pour m'attirer les faveurs des uns ou des autres. Seigneur, si je travaille pour toi, c'est pour toi que je veux faire la chose. Alors je prie, Seigneur, que tu nous parles. Je prie, Seigneur, que tu nous instruises. Je prie, Seigneur, que tu nous conduises et que tu nous permettes, Seigneur, de faire mieux. Que tu nous permettes d'être ces serviteurs que tu désires qu'on soit. Dans la façon de faire, dans l'objectif, dans la motivation. Que tout ce qui m'habite puisse être conforme à ta volonté. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On se retrouve demain matin pour notre dernière séance. Ça sera une séance de prière demain matin, puisqu'on est vendredi. Le vendredi, c'est journée de jeûne et de prière. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui peuvent, on vous invite à être dans le jeûne et la prière. On aura deux rencontres demain matin à 8h30 et demain soir à 19h. De surcroît à cela, on vous rappelle que les inscriptions pour assister à l'assemblée en présentiel ont lieu jusqu'à demain matin midi. Donc, si hier vous n'avez pas reçu d'appel, de texto, de courriel pour confirmer votre inscription, c'est que nous n'avons pas reçu votre demande d'inscription. Donc, si vous voulez être là dimanche matin pour l'assemblée, ben, on vous demande de vous inscrire. Ne tardez pas, les places descendent encore cette semaine, donc les gens s'inscrivent, il reste de moins en moins de places, mais il reste encore de la place. Donc inscrivez-vous, prenez le temps d'appeler. Il y a simplement deux voies pour s'inscrire. C'est soit la boîte vocale de l'église, donc au numéro de téléphone de l'église, sinon c'est le courriel de l'église. Ce n'est pas Messenger, ce n'est pas Facebook, c'est directement par le courriel de l'église. Si vous regardez un peu plus bas dans les affichages de cette semaine, vous verrez effectivement sur la page Facebook de l'église une petite publicité et vous avez là-dessus écrit, ce n'est pas un lien actif, vous avez écrit là-dessus le numéro de téléphone de l'église, de même que l'adresse électronique de l'église pour pouvoir nous écrire et demander à ce qu'on vous réserve une place. Donc vous avez jusqu'à demain matin, on fera la deuxième vague d'appels de confirmation demain en après-midi. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse, on se retrouve demain matin à 8h30 pour notre prochaine bénédiction matinale. Que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous, au revoir tout le monde.